Pauline Pucciano, Le Porphyre et l'Albâtre, chapitre 17, À la porte d'Albâtre. Il fallait traverser toute la ville basse pour accéder à la porte d'Albâtre. Il ne s'agissait pas des portes et poternes de Hauteville, mais bien de l'accès général à la cité. Quelques années auparavant, Aléonore avait fait construire sur la route, à quelques mètres des premières bâtisses, un magnifique monument d'Albâtre, avec deux structures ornementales symétriques entourant une double porte immense. Cette porte était restée ouverte pendant 12 ans, sans même un garde en faction. Mais les temps étaient en train de changer, et c'était la première fois qu'elle voyait la porte close. Ces deux vantaux de bois, si lourds qu'il fallait 2 hommes pour les pousser, n'étaient pas rabattus, mais une grille superbe, aux délicates arabesques de métal, barrait le passage. Aéléonore, en se promenant dans la ville basse, avait adopté cet état d'esprit à la fois disponible et ouvert qui était indispensable à la gouvernance. Il fallait prendre le temps de sortir, de regarder, de parler, sans autre intention que de se mettre à l'écoute du rythme de la cité. Elle y consacrait toujours un temps quotidien, et cette façon de respirer Albâtre lui permettait d'en humer les parfums les plus subtils. Comme un artiste cherchant l'inspiration dans un simple frottement au monde, elle laissait germer, pousser et éclore en elle des idées d'embellissement et d'amélioration. Elle ne savait jamais au juste ce que ses promenades allaient lui apporter, mais il était rare qu'elle revînt bredouille de ses déambulations rêveuses. Aujourd'hui, la traversée de la ville basse, qui commençait à tomber en décrépitude, lui avait inspiré des envies de rénovation. On n'avait pas besoin de nouveaux logements, certes, mais cela viendrait peut-être, et de toute façon cela prendrait du temps. Il faudrait peut-être redessiner les rues. Ses yeux, chargés de souvenirs, s'étaient posés sur les façades noirâtres, les boiseries vermoulues. Elle avait vu en même temps 3 villes basses, celle du passé, où s'agitaient les fantômes bruyants des bas citoyens, celle du présent, presque déserte, et qui paraissait la tombe de l'autre, et celle de l'avenir, blanche et gracieuse, parcourue de citoyens tranquilles. La vision de la porte la conforta dans cette idée. Plutôt que d'être une tache blanche et élégante dans ce marais de boue et de bois qu'était devenue la ville basse, la porte devait donner le là, être le fer de lance de la future rénovation. Un jour, elle serait simplement en harmonie avec le reste, il suffisait de le vouloir. De la même façon que les souvenirs personnels et les rêveries politiques se superposaient dans sa vision, Aéléonore était à la fois individuelle et sociale, incapable de faire la part de ses fonctions dans la plupart des moments de sa vie. Elle songea, comme souvent, aux enseignements que lui avait prodigués Naïma sur les différents niveaux d'existence et de conscience, le fait d'être un regard universel, une conscience humaine et impersonnelle, le fait d'appartenir à une culture précise, le fait d'être une personne singulière. « Notre liberté est absolue, mais elle est minuscule », lui avait dit Naïma. « Notre liberté n'est pas dans notre être, mais dans notre œuvre. » Elle arrivait devant la porte et rencontra les 2 citoyens qui étaient d'astreinte, une femme entre 2 âges et un jeune homme qui paraissait heureux de la distraction que représentait sa visite. Aéléonore leur fit un salut gestuel et leur sourit. « Personne ne s'est présenté ?»« Non, personne pour le moment », répondit la femme. « Et le temps est bien long, n'est-ce pas ?»« En effet. » D'après mes calculs, et si les informations de Keller sont exactes, les premiers citadins des cités portuaires ne devraient pas tarder à se présenter. Tout est-il prêt pour les accueillir ? Oui, nous avons fait et refait le tour. Les hangars ont été aménagés selon vos ordres. Des lits, des vivres pour plusieurs semaines, un mobilier rudimentaire, de quoi faire du feu pour cuisiner, une citerne d'eau, des couvertures, une fosse d'aisance. Aéléonore jeta un œil vers les hangars qui se situaient au-delà d'un petit ruisseau qui traversait la route. Elle se demandait si elle devait aller vérifier par elle-même les conditions d'accueil lorsque sa réflexion fut interrompue par une silhouette qui arrivait à longs pas rapides. Elle projeta immédiatement son esprit et découvrit une activité spirituelle intense. La personne qui arrivait savait utiliser l'esprit, et son intrusion mentale fut remarquée et repoussée avec une obligeante fermeté. « C'est un homme qui sait utiliser l'esprit, » dit-elle à ses concitoyens, tandis que l'homme, habillé d'un riche vêtement noir brodé de vert, s'approchait.
« Je croyais que les gens des cités portuaires ne savaient pas utiliser l'esprit, » demanda le jeune homme. « La plupart ne savent pas. Seuls les prêtres ont accès à cette maîtrise. » Cet homme-là n'a pas l'air de se moucher du pied, maugréa la femme, dont Eleanor supposa qu'elle était originaire de Villebasse. « Bonjour, étranger !» cria Eleanor. « Pouvez-vous vous arrêter au niveau du hangar ?»« Je ne suis pas infecté, » dit Christome, dans une langue noble parfaite. « La quarantaine est inutile. »« Je suis navré, monsieur, mais la cité d'Albâtre ne vous accueillera véritablement que lorsque vous aurez passé une dizaine de jours en bonne santé dans ce hangar. Un confort rudimentaire vous y sera offert. » « 10 jours !» répéta Christome avec mépris. « La période d'incubation n'est que de 8 jours. »« Je suis Eleanor, gouvernante d'Albâtre. Êtes-vous un prêtre de l'église de la mer ?» demanda Eleanor pour changer de sujet. « Oui, je suis le révérend Christome, » répondit l'homme d'un ton las. « Êtes-vous seul sur le chemin ?»« Non, un groupe de bourgeois me suit et arrivera dans quelques heures. »« Pourrez-vous leur expliquer les consignes ?» Ne pas franchir le gué, rester dans le hangar principal tant que vous êtes en bonne santé, confiner les malades dans le second hangar et cesser tout contact physique avec eux. C'est entendu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, transmettre l'annonce de mon arrivée à l'un de vos concitoyens? Lequel? Le dénommé Keller. À Eleanor, un peu surprise, acquiesça. Bien sûr. Je lui demanderai de passer vous voir si vous avez besoin d'un entretien urgent. Cela concerne la sécurité d'Albâtre, insista Christome. « Fort bien, » dit à Eleanor, de plus en plus intriguée. « Monsieur, » ajouta la femme qui était de faction. Christome se tourna vers elle avec un certain mépris qui montrait qu'il n'était guère habitué à ce qu'un subalterne lui adressât la parole. « Vous n'avez pas de pierre frontale qui est obligatoire en Albâtre pour rendre visible l'utilisation de l'esprit. Nous vous demanderons donc de vous abstenir de toute activité spirituelle. » Christome éclata d'un rire froid. « Vous plaisantez ?» Eleanor regarda sa concitoyenne, embarrassée. « Non, dit-elle, vous pouvez méditer et vous concentrer, mais évitez toute utilisation impliquant une tierce personne ou un objet. Sinon ?» Eleanor fit luire sa pierre frontale. « La cité d'Albâtre ne connaît ni Dieu ni maître, et les lois y sont souveraines. Les privilèges qui fondent votre cité ont été abolis et sont honnis ici. » Vous êtes en ces lieux un humble parmi les anonymes, un utilisateur de l'esprit dans une cité où vous partagez ce pouvoir avec tous, quelles que soient vos raisons de chercher asile en Albâtre, dans une cité sans argent et sans classe, ne vous attendez pas à ce que nous respections les prérogatives liées à votre statut social. Je ne cherche pas asile, corrigea Christome. C'est égal. Entendu, je transmettrai vos consignes aux nouveaux arrivants. Et je transmettrai votre message à Keller, dit à Eleanor en s'inclinant. Le prêtre avait tourné les talons et disparu dans le hangar. « Ce prêtre ne me dit rien qui vaille, » grogna la femme. « Comment saurons-nous s'il obéit ?» demanda le jeune homme. « Avertissez-moi au moindre doute, à la moindre chose bizarre, à la moindre question. Je vais faire doubler la garde. » À Eleanor trouva Keller aux abords de la frontière, et pendant un court instant l'illusion fut presque parfaite. Ils marchaient l'un vers l'autre, à l'ombre de cette bâtisse qui était le lieu de leurs rencontres, de leurs amours et de leurs retrouvailles. La masse de temps et d'événements qui avaient terni leur relation fut momentanément gommée, comme on efface sur une esquisse les traits fautifs qui ont défiguré la figure charmante qu'on avait tracée au début, et toute l'intensité de leurs sentiments lui fut restituée. Cela ne dura pas, mais pendant cet instant sa mémoire s'emplit de toutes les sensations du passé, et lorsqu'ils furent face à face et que le moment présent eut retrouvé toute sa solide consistance, à Eleanor fut prise d'un regret poignant. « Ça ne va pas ?» demanda Keller. Elle comprit qu'il n'avait pas ressenti la même chose et s'accusa elle-même de sentimentalisme. « Excuse-moi, j'étais assaillie de souvenirs. » Keller leva les yeux vers la frontière, l'air grave. « Nous n'avons pas reparlé depuis le Festival des Âges, » reprit à Eleanor. « Ce n'était qu'avant-hier, » fit remarquer Keller en souriant. « Je veux dire, nous n'avons pas reparlé de ce qui s'était passé pendant la dernière épreuve. » Keller fronça les sourcils. « La résistance à la douleur ? » ?»« Précisément. »« Eh bien ?» Eleanor soupira. « Ne me fais pas l'injure de faire semblant de ne pas comprendre, Keller. Je vous ai vu, Artus qui faisait un effort sur lui-même pour cacher son pouvoir, et toi qui l'aidais. » Keller accusa le coup. Et il essaya de réfléchir vite. J'ai senti la présence qui était sous la montagne, Keller, et qui a détruit Irène. Qu'il s'agisse de Sornar ou d'un autre démon, c'était bien là pendant le festival. Et vous, vous le saviez. Cela fait 2 jours que je réfléchis à cette énigme. Tu n'as pas vu Artus ? Demanda-t-il pour gagner du temps. Elle leva les yeux au ciel dans un geste agacé qui lui était familier. Tu sais bien que tous les jeunes gens sont partis fêter leur victoire. Artus, Gretel, Nox, aucun d'eux ne sera visible avant plusieurs jours. Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler plus tôt ? Je te retourne la question, Keller. Il s'agit de la sécurité de la cité. Il s'agit d'un ennemi que nous avons combattu ensemble. J'ai beau chercher, je ne vois aucune raison que je puisse admettre pour me cacher cette information essentielle. Le ton de sa voix était en train de monter. La colère s'éveillait en elle avec une lenteur irrémédiable. Keller se frotta les yeux et soupira, puis il la regarda en face. Elle le mettait au défi de lui prouver qu'elle avait tort, et il la comprenait, sans foi. « Nous avons beaucoup hésité à te le dire. Artus est donc bien au courant lui aussi ? Et Nox ?» Keller eut un léger mouvement de recul, surpris par cette question. Eleanor n'avait deviné que la moitié de la situation. Elle ne pouvait donc pas changer d'attitude envers Nox et compromettre le jeu de masque auquel il se livrait depuis 12 ans. « Artus seulement. Nox n'utilise pas l'esprit, tu le sais. Nous l'avons tenu totalement à l'écart de tout cela. » Eleanor acquiesça, impatiente. « C'est la raison pour laquelle j'ai été à Porcaris, pour me renseigner, pour demander de l'aide. Et c'est ainsi qu'un prêtre de Porphyre a échoué dans notre quarantaine. » Keller leva un sourcil mais n'osa pas demander autre chose. À Eleanor le sommet de s'expliquer, le reste passait après. Artus a découvert cette présence il y a quelques mois, mais il n'était pas sûr de lui au début. Il n'y a pas eu d'agression, seulement une visite. « Combien de fois ?»« 3 ou 4 fois. » Keller, qui la connaissait bien, savait qu'Eleanor était en ce moment même partagée. Une partie d'elle était furieuse et blessée, l'autre, froidement, examinait les prémices, déduisait, développait des conclusions. Que veut-il à Albâtre puisqu'il ne la détruit pas ? Keller choisit prudemment de rester sur le terrain rationnel. S'il ne la détruit pas, c'est peut-être parce qu'il veut Albâtre, intacte, pour lui. Nous n'avons pas la preuve que cet esprit désincarné soit demeuré conscient et intelligent après la rupture avec son corps. Il ne s'agit plus d'une simple projection. Le corps de Sornar a refroidi et brûlé. Est-il possible qu'un esprit humain conserve une volonté personnelle, une raison semblable à la nôtre après un pareil traumatisme psychique ? Nous devons parer au pire. Artus pense qu'il demeure malveillant. Oui, nous devons le supposer. S'il est demeuré conscient et continue à poursuivre ses desseins, quels peuvent-ils être ? Le Sornar que nous avons combattu a toujours couru après plus de pouvoir spirituel, mais il est arrivé au stade ultime où il ne reste rien à désirer. Il pourrait tous nous tuer. Pourquoi se donne-t-il la peine de cacher sa présence ? Nous pensons qu'il attend quelque chose. Keller voyait Eleanor sauter prestement d'idée en idée, sur des crêtes intellectuelles aériennes où lui-même ne s'était déplacé qu'avec lenteur. N'était-il pas stupide de lui cacher la vérité ? N'était-elle pas entre toutes la personne la mieux à même de les aider à comprendre et à prévoir ce qui se tramait ? L'écaille qui recouvrait encore ses yeux n'allait-elle pas de toute façon finir par tomber ? Eleanor hochait la tête, étudiant la recevabilité de l'hypothèse. « Il n'est pas maître du temps, admit-elle. Il est possible qu'il doive attendre quelque chose. Mais quoi ? Un événement ? Une personne ? De qui, de quoi un esprit tout-puissant peut-il dépendre ?» Keller ne répondit rien. « Qu'as-tu appris auprès des prêtres de Porphyre ?»« Ils sont familiers de cette projection hors du corps. Ils la pratiquent même lors de leur liturgie. D'après eux, cet esprit pourrait avoir besoin de fidèles pour augmenter sa puissance. » Eleanor soudain redescendit sur terre. Et le regard dur qu'elle fixa sur Keller le mit au supplice. « Il y a un instant, j'étais plongée dans la nostalgie, et voilà que je suis à nouveau furieuse contre toi, » dit-elle amèrement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Keller soupira. Et en guise de réponse lui caressa la joue. « Tu ne vas rien répondre !» insista-t-elle en repoussant sa main. Keller se mordit les lèvres. « Il n'y a rien à dire pour ma défense, alors je ne dis rien. » « C'est la deuxième fois que tu refuses de me parler. La dernière fois, tu m'as même contrainte. Tu me caches des informations essentielles à la sécurité de la cité. Tu t'enfermes dans le silence alors même que tu sais que je ne te le pardonnerai jamais. Et je ne comprends pas pourquoi. Qu'arriverait-il de si grave si je savais ? Est-ce que je serais amenée à prendre des décisions ou à commettre des actions que tu jugerais dangereuses ? Oui, Eleanor, tu es trop intelligente et tu as mis le doigt dessus, exactement dessus, sans même utiliser l'esprit. Je me sens comme une horloge démontée sous ton regard perçant. Il est essentiel que tu ne saches pas ce que tu veux savoir. Si tu as la moindre confiance en moi et en Artus, tu dois te contenter de cette explication. Eleanor paraissait presque soulagée et dit d'un ton moins dur. « Comment pourrais-je m'en contenter ?»« Je ne sais pas, c'était plus facile quand tu ne savais pas qu'il y avait quelque chose à chercher. »« Et quand comptiez-vous me parler de tout cela ?»« Bientôt, dit Keller évasivement. Je vois. Eh bien, je te recommande d'aller voir ce révérend Christome qui est arrivé tout à l'heure. Et quand tu verras Artus, tu pourras lui demander de venir me voir dès que possible. À moins, bien sûr, que cela ne contrevienne à vos plans mystérieux. Keller ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle avait déjà tourné les talons et ne se retourna pas. Il se mit donc en route pour la porte d'Albâtre, anxieux. Dans le hangar, le groupe tentait de s'organiser. Le révérend Christome, plongé dans l'écriture d'un vélin, avait à peine salué ses compagnons de voyage lorsqu'ils étaient arrivés éreintés. Il leur avait transmis les consignes, d'une voix claire, et s'était retiré en lui-même, plus efficacement que s'il eût tendu un paravent entre eux et lui. Il ne paraissait entendre ni les meubles que l'on tirait, ni les sacs que l'on ouvrait, ni les phrases qui fusaient en tous sens comme des balles que chacun lançait et que personne ne prenait la peine de rattraper. « Aïfa, qu'attendez-vous ? Le petit a faim depuis plus d'une heure, nous avons bien le temps d'aller déballer les paquets. Mais monsieur m'a demandé de faire vite à cause de la menace de pluie. Juline, où voulez-vous vous installer ? Par ici peut-être ? Alphen, tu devrais t'occuper des oiseaux, ces bestioles sont fragiles. » « Maman, j'ai faim et je n'aime pas les galettes que me donne Aïfa. »« Marco, s'il ne t'échappe pas que nous ne sommes pas chez nous et tu vas me faire le plaisir de cesser tes caprices. »« De quels oiseaux parlez-vous, Joss ?»« Un couple d'oiseaux légendes que mon mari a eu la charmante idée d'apporter en cadeau au seigneur Keller. » Il y eut un silence et même le révérend Christome daigna tourner la tête en direction de Joss. Les oiseaux légendes, en voie d'extinction, coûtaient une fortune. Juline ne cacha pas qu'elle brûlait de curiosité de les voir. Alphen, qui n'était pas peu fier de sa trouvaille, et qui espérait recevoir par ce cadeau princier un traitement de faveur à Albâtre, se mit en devoir de débarrasser la cage du lourd velours qui l'occultait, et il y eut un nouveau silence lorsque tout le monde s'approcha pour les voir. « Pourquoi tu ne veux pas me les donner ?» gémit Marcos. « Tais-toi, mange ta galette !» chuchota Joss. Le mâle, d'un rouge sang, ébouriffa ses plumes iridescentes. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans le hangar, et le halo qu'il répandait, comme la lumière filtrée par un vitrail, semblait venir d'un autre monde. La femelle, jaune d'or, était immobile. « Elle est morte ?» demanda Marcos. « Mais non, voyons, » dit Alphen, tout en saisissant un petit bâton pour la faire bouger. L'animal endormi s'ébroua, et ses plumes dorées immédiatement se mirent à irradier. Le révérend Christome prononça un verset de circonstance sur la grandeur de l'œuvre maternelle et alla se rasseoir. Tandis que Joss et Aïfa recommençaient à s'affairer, Juline demeura un long moment rêveuse devant les oiseaux fabuleux. Le calme commençait à s'installer dans le hangar lorsque leur attention fut brusquement attirée par l'arrivée d'un nouveau venu. Il s'agissait d'un homme d'Albâtre, à en juger par sa pierre frontale, mais il avait la mise d'un vagabond. Il était athlétique et dégageait une impression de maîtrise et de puissance. Sa bouche avait ce pli particulier des hommes qui parlent peu. « Venez-vous d'Albâtre ?» s'enquit Alphen avec une froide politesse. « Oui, mais cela fait 20 ans que je l'ai quitté, et j'y reviens à peine. »« Ce qui fait de vous un voyageur en quarantaine au même titre que nous, » conclut Joss. « Nous devons rester ici pendant 10 jours, ne pas franchir le gué, isoler les malades éventuels dans le second hangar. » L'homme regarda tour à tour les personnes présentes et son œil s'attarda un peu sur Juline. « Une quarantaine ? Des malades ? Que se passe-t-il ? » « La fièvre rouge !» souffla Aïfa en faisant sur sa poitrine le signe de la mer. L'homme acquiesça. « Fort bien, je tâcherai de ne pas vous déranger. » « On m'a demandé également, intervint Christome, de ne pas faire usage de mon pouvoir spirituel, mais peut-être est-ce différent pour vous qui êtes doté d'une pierre frontale ?» L'homme ne semblait pas désireux de faire la conversation, et il choisit un lit le plus éloigné possible des autres. « Je suis Juline, et je vous présente le révérend Christome, le marchand Alphen et son épouse Joss, ainsi que leur fils Marcos, et leur servante Aïfa. Nous venons de Port-Caris. » L'homme inclina la tête et fit un salut protocolaire ancien. « Je me nomme Sifère, et serai ravi de vous obliger. » Juline le regardait avec une insistance effrontée. Ce ténébreux lui plaisait malgré ses haillons. Son irruption l'avait tiré de l'ennui abrutissant dans lequel elle se trouvait confinée depuis 2 jours. Mais il semblait un peu sauvage et elle prendrait son temps pour l'apprivoiser. Rien ne pressait après tout. Ils avaient 10 jours à passer dans la plus troublante des promiscuités. Elle retourna donc à la contemplation des oiseaux légendes qu'Alphen était en train de nourrir. Fer, après avoir déballé ses quelques affaires, ressortit à l'air libre. La pluie menaçait de tomber, mais pour le moment, le ciel d'acier se tenait tranquille. Il y avait dans l'air ce silence et cette électricité particuliers aux instants qui précèdent l'orage. Il se trouvait au pied de la cité et avait sur elle une vue en contre-plongée. La haute ville, perdue dans la distance, heurta son regard par sa magnificence débridée et la débauche de son luxe, de ses jardins suspendus, de ses escaliers, de ses statues. Il aperçut un colosse qu'il n'avait jamais vu, une statue de femme s'il pouvait bien voir, et son cœur endurci éprouva quelque chose à la vue de cette ville natale. Depuis 15 ans, il n'avait connu que la désolation des souterrains ou la morne humilité de la cité-monastère. Ici, on n'était pas écrasé par la montagne, on dominait les forêts et les vallées, et on avait taillé la pierre pour lui insuffler toute la légèreté et la grâce possible. On était plus près du ciel. Un homme arrivait de l'intérieur de la ville à la porte d'Albâtre. C'était un haut citoyen d'une 50aine d'années qui avait ramené ses cheveux blancs en une queue de cheval. Ce détail frappa Fer, car il symbolisait tous les changements qui avaient eu lieu ici. Aucun haut citoyen n'aurait osé sortir avec une pareille coiffure 15 années auparavant. Seuls les bas citoyens se permettaient ce genre de laisser-aller. Mais celui-ci avait une pierre frontale. Il portait les marques conjointes de la haute ville et de la basse ville. Il était un citoyen de la nouvelle Albâtre. Soudain, cet homme l'appela. « Monsieur !» Il avait fait appel à l'esprit pour permettre à sa voix de porter plus loin. Fer s'approcha jusqu'au ruisseau et fit un salut respectueux. « Pouvez-vous décliner votre identité ainsi que celle de tous vos compagnons de quarantaine ?» Fer fit appel à l'esprit à son tour pour se souvenir de tout. « Nous sommes 7 pour l'heure. Le révérend Christome, le marchand Alphen avec sa maisonnée composée de sa femme Joss, de son fils Marcos et de sa servante Haïfa, ainsi qu'une femme nommée Juline, également originaire de Porcaris. Quant à moi, je m'appelle Sifer. Je reviens d'un voyage au long cours et je retrouve Albâtre où je ne suis pas venu depuis 20 ans. » L'homme semblait intrigué, mais ne posa pas de questions. « Pouvez-vous dire au révérend Christome, ainsi qu'au marchand Alphen, que Keller les attend ?» Fer s'empressa de rentrer au hangar. Ainsi donc, cet hybride était justement Keller. Il transmit le message et ressortit presque aussitôt. Il affecta de se mettre en position de méditation, mais ne cessa d'observer et d'écouter les salutations qui s'échangèrent devant lui. Keller et le marchand échangèrent quelques politesses sans intérêt, qui ne durèrent pas longtemps. Le prêtre, en revanche, s'attarda après que le marchand fut parti, et la conversation qu'il eut avec Keller lui parut plus grave. Fer dut aiguiser ses sens avec l'esprit pour parvenir à saisir le contenu de leurs paroles que, malgré la distance, ils n'échangeaient pas à voix haute. « Je suis content que vous arriviez parmi les premiers, » dit Keller. « La déesse l'a jugé utile. Ne pouvez-vous contourner la quarantaine? Je ne suis pas infecté. Une simple sonde spirituelle vous le dira. » Les ordres sont stricts et je ne souhaite pas attirer l'attention sur vous en particulier. Je vous confie le soin de me trouver un logement central et tranquille pour la durée de mon séjour. Il en sera fait selon vos désirs. N'hésitez pas à me faire mander si vous avez besoin de quelque chose. » Le prêtre de Porphyre inclina presque imperceptiblement la tête et Keller lui rendit son salut. Puis les deux hommes se séparèrent. Avant de partir, cependant, Keller jeta un regard appuyé dans la direction de Fer et le dévisagea un moment. Évidemment, il avait une pierre frontale, qui signait son appartenance à Albâtre, et il allait être très difficile de tenir son mensonge. Il parviendrait certes plus facilement à se fondre dans la foule, mais dès qu'on lui poserait des questions précises, il serait embarrassé pour répondre. N'allait-on pas lui demander où il habitait avant de quitter la cité? De quelle famille il venait? Dans quelle guilde il avait servi? Il lui faudrait marcher toujours sur le fil, rester évasif, ne pas trop se lier, maîtriser sa langue. Ce dernier point ne devrait pas être trop difficile. Mais si quelqu'un venait à le reconnaître? Cela paraissait peu probable, car il avait changé et n'avait jamais fréquenté grand monde, mais cela demeurait possible. Il avait vécu en haute ville. Il songea à dire une semi-vérité, qu'il avait fait partie de la guilde de l'ombre et qu'il avait fui en solitaire la nuit de la Révolution, ainsi qu'un certain nombre de ses frères, tandis que le gros des troupes suivait Sornar pour une destination inconnue. Ce qui avait motivé sa fuite? La désertion de Sornar devant l'attaque de la haute ville, qu'il considérait comme une félonie. Cela se tenait, c'était même la version la plus commode. Il mit fin à sa méditation et se releva. Des odeurs de cuisine sortaient du hangar, où un foyer de cuisson avait été installé. Fer fut saisi par l'odeur des épices d'Albâtre, qu'il n'avait pas senti depuis 15 ans, et qui vint chatouiller ses narines avec l'insistance indiscrète d'une vieille amie qui vous a reconnu dans un lieu public. Il ferma les yeux, un bref instant, et se laissa aller à sa réminiscence. C'était la muscade, l'ambroise, la santaline, le bouquet de feuilles de lune qui répandaient leurs arômes délicats. Il se souvint, dans une bouffée intense qui effaça les 20 années d'austérité et de privation qu'il venait de vivre, de l'art de vivre de la haute ville, de ses musiques, des lueurs chaudes des vasques dansant sur l'albâtre luisant, de la gracieuse nudité de ses femmes. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouva face à Juline, qui était sortie pour le chercher, et ce fut comme si elle surgissait de ce parfum capiteux, de ce passé ravivé, comme si elle incarnait tout à coup l'hédonisme lointain de sa jeunesse. Elle était de Porcaris, bien sûr, et non d'albâtre, mais il y avait dans son maintien distingué et lascif, dans son élégance sensuelle, quelque chose qui la rendait semblable aux hautes citoyennes qui reposaient langoureusement dans sa mémoire. Il lui emboîta le pas et, comme un personnage des légendes qu'il lisait au jardin des Caprices, il suivit le sillage du fumet qui l'attirait au foyer.